Bonjour. On va étudier ce matin un passage qui est aussi dans un évangile, un passage qui nous est raconté par Jésus. C'est une parabole que Jésus va raconter à ses disciples. À ses disciples, mais pas qu'à ses disciples, aussi aux pharisiens. Et c'est un passage assez court. Trois versets, ce qui est quand même assez exceptionnel pour moi. Et je vais vous donner le contexte de ce passage. Dans ce passage, Jésus vient de libérer un démonisé, quelqu'un qui est, on va dire, démonisé, qui a un démon en lui. Donc, il a chassé le démon de la personne. Et les pharisiens qui regardent ce miracle et qui ne croient pas en Jésus l'accusent de libérer cette personne au nom du diable. Donc ils disent à Jésus, tu as chassé le démon au nom du diable. Alors Jésus leur démontre que c'est pas possible de chasser le diable avec le diable, puisque le diable va pas se chasser lui-même. Hein. Le diable est plutôt d'accord pour qu'il y ait des démons à l'intérieur des personnes. Donc Jésus leur démontre que c'est pas possible qu'il chasse le démon grâce au diable, mais il leur dit justement, si je ne chasse pas ce démon au nom du diable, mais au nom de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est parmi vous, que le royaume de Dieu est en train de s'imposer ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que Jésus fait. Face à l'incrédulité des personnes qui voient ce miracle, Jésus finit par une parabole que nous allons afficher. Ariel, normalement, tu devrais avoir un passage à afficher. Pas du tout ? T'es sûr ? D'accord. C'est pas grave, je l'ai fait hier soir. T'es sûr ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a trois versets, donc ça, vous devriez vous en sortir. Donc c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 24. Luc 11, 24. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Alors, il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la retrouve balayée et mise en ordre. Alors, il va chercher sept autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Voilà la petite parabole. Voilà, Jésus vient de chasser un démon, il rencontre l'incrédulité, il raconte une petite parabole. C'est un peu les aventures d'un esprit mauvais qui vient de sortir de quelqu'un. Et ça tombe bien parce que Jésus vient de le faire avec quelqu'un précédemment. Donc vous avez compris l'histoire. C'est l'histoire d'un esprit qui sort de quelqu'un. Il ne trouve pas d'autre endroit où aller. Donc il se dit, je vais retourner chez le quelqu'un de qui je suis sorti. Il voit qu'il n'y a personne qui a pris sa place. Donc il se dit, tiens, je vais inviter sept potes avec moi, sept esprits encore plus mauvais que moi, et on va tous habiter chez le quelqu'un chez qui j'étais auparavant. Et donc la situation de la personne qui a été libérée est encore pire qu'avant d'avoir été libérée la première fois. C'est ça l'histoire. Le but de Jésus, quand il nous raconte cette parabole, c'est pas de nous décrire scientifiquement les péripéties d'un esprit démoniaque sans domicile fixe, ou de faire des révélations croustillantes avec une sorte de dissection spirituelle de l'âme d'un ex-possédé. C'est pas du tout ça son but. Son but, c'est pas de nous raconter ce qui se passe quand un démon quitte un corps. Jésus veut que son auditoire comprenne que face à lui, c'est-à-dire quand on entend ses enseignements ou quand on voit ses miracles, on ne peut pas rester neutre. C'est pas possible de rester neutre face à Jésus. C'est une guerre spirituelle qu'il est en train de mener. Donc, soit on est avec lui, soit on appartient aux ténèbres. C'est un dilemme très clair, c'est très manichéen ce que Jésus propose. Soit on est avec lui, soit on est dans les ténèbres, c'est-à-dire on appartient au diable. Mais il y a deux détails de cette parabole sur lesquels j'aimerais appuyer. Le premier détail de cette parabole, c'est qu'il y a une période de flou spirituel entre la délivrance opérée par Jésus et la prise de décision durable de la personne qui vient d'être libérée. Ça veut dire que le démon est réellement parti de la personne, mais personne n'a pris sa place. Donc voilà, vous voyez la période de flou qui existe entre la libération et l'état final. Ça, c'est le premier détail. Le deuxième détail de cette parabole sur lequel j'aimerais appuyer, c'est qu'on peut avoir été libéré par le Seigneur, mais ne pas lui appartenir au final. Et pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit n'a pas pris sa place. Et c'est bien le problème de cet homme qui a été libéré. Hein. Quand le démon revient, personne n'a pris la place dans, on va dire, dans l'âme de l'ex-possédé. Le Saint-Esprit n'a pas pris la place, donc le démon peut revenir et peut même inviter ses copains avec lui. Et donc, la situation finale de la personne qui a été libérée par le Seigneur peut être encore pire que quand il n'avait pas été libéré, puisque il y a 7 démons encore pires qui sont venus. Voilà les deux détails sur lesquels j'aimerais appuyer, deux détails qui sont un petit peu troublants, qui peuvent un petit peu faire peur. Et on pourrait croire que Jésus raconte cette parabole pour un petit peu mettre la pression hein, sur son auditoire, pour dire voilà, vous pouvez pas rester neutre à mon égard, il faut choisir votre camp. On peut penser que Jésus grossit un peu le trait, mais quand on lit le reste de la Bible, quand on connaît un petit peu l'Ancien Testament et aussi ce que les apôtres vont écrire après Jésus, eh bien on s'aperçoit que ces deux détails ne sont pas du tout exceptionnels. Il existe de nombreux exemples bibliques de cette réalité. Par exemple, au début de la Bible, hein, dans la Genèse, quand il y a le déluge, donc vous vous rappelez que Dieu choisit d'exterminer toute une partie de l'humanité et de ne sauver que la famille de Noé sur l'arche. Et donc tout le monde est noyé, il n'y a que la famille de Noé. Et là on se dit, d'accord, il y a enfin des justes qui sont sauvés, donc ils vont repeupler la terre, ça va aller mieux. Le cycle du péché va enfin être rompu. Et là, une fois qu'ils atterrissent, plutôt qu'ils regagnent la terre sèche, de quoi on s'aperçoit ? C'est que Noé se saoule et il y a une histoire un petit peu infâme avec son fils qui vient voir Noé, qui est nu et ivre, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a plusieurs interprétations sur ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, Cham, donc le fils de Noé, découvre la nudité de son père. Et Noé finit par le maudire, en disant « tu seras l'esclave de tes frères ». Et là, on s'aperçoit que malgré l'épisode de l'arche, malgré ce sauvetage de la part de Dieu, bien, dès que la famille de Noé a touché la terre ferme, le cycle du péché recommence. Et là, on comprend qu'on n'en a pas fini avec le péché. C'est pareil avec Lot, la famille de Lot qui est sauvée de Sodome et Gomorre. Vous avez la femme de Lot qui est sauvée de cette ville qui va bientôt être totalement détruite par Dieu. Et cette femme se retourne un peu en signe de regret sur Sodome et Gomorre. Et vous savez ce qui lui arrive ? Elle est changée en statue de sel. Elle a été sauvée, mais elle revient quand même un peu en arrière et Dieu la châtie direct. Elle est changée en statue de sel. Et encore un exemple dans l'Ancien Testament, les Hébreux qui sont sauvés d'Égypte avec des gros miracles de la part de Dieu, mais dès qu'ils sont sortis d'Égypte, presque quelques jours après, ils sombrent dans l'idolâtrie en fabriquant un veau d'or pour l'adorer, alors que c'est Dieu qui les avait sortis d'Égypte. Libérés, oui, mais sans appartenir vraiment à Dieu. Libérés, mais toujours esclaves du péché, toujours à lorgner en arrière, toujours à regarder vers l'Égypte. Et d'ailleurs, ils vont le dire très souvent dans le désert à Moïse, on était bien mieux en Égypte. Ce qui montre bien, hein, finalement, qu'ils ont eu beau être libérés, ils sont toujours prisonniers des coutumes égyptiennes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a aussi des exemples de personnes qui ont été libérées, mais qui n'appartiennent pas à Dieu. Par exemple, les 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus. Et vous savez ce qui se passe, hein, 10 lépreux, Jésus guérit 10 lépreux. Il leur dit, bah, maintenant que vous êtes guéris, allez vous montrer au prêtre dans le temple pour qu'il vous réintègre dans la communauté d'Israël. Hein, c'était là, dans la loi de Moïse, c'était comme ça. Et bon, ils vont tous se faire reconnaître par le prêtre, reconnaître qu'ils sont guéris. Et sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient vers Jésus. Un seul. Et en plus, le seul qui revient, c'est même pas un juif, c'est un samaritain. Les 9 autres, bah, ils sont super contents d'être sauvés, mais ils se fichent royalement de l'identité de leur sauveur, de celui qui a opéré le miracle. Et j'ai enfin un dernier exemple dans la lettre de Pierre, la deuxième lettre de Pierre au chapitre 2, où Pierre parle de personnes qui ont intégré l'Église. Donc c'est 2 Pierre 2 à partir du verset 20. Il parle de personnes qui ont intégré l'Église et puis qui ont quitté l'Église à cause des épreuves, à cause du fait que les chrétiens commençaient à être persécutés. C'était quelque chose qui était, on va dire, normal dans l'Église primitive. Et voici ce que dit Pierre à leur rencontre. Il dit qu'ils sont comme un chien qui est retourné à son vomi. Ils ont été sauvés dans un premier temps, on va dire. Ils ont mis leur foi en Jésus et puis ils sont retombés direct. Ils sont retournés à leur vomi, ils sont retournés à leur vie ténébreuse d'avant. Réalité assez complexe. Réalité qui fait un petit peu froid dans le dos parce que ça va un peu dire qu'on ne peut pas trop se fier aux événements premiers. On ne peut pas forcément se réjouir tout de suite qu'une personne finalement ait une expérience spirituelle extraordinaire. Parce que justement, les exemples que je viens de citer montrent que ça ne veut pas dire qu'une personne appartient à Jésus même quand elle a vécu un événement spirituel extraordinaire. J'ai un collègue qui est américain, qui a travaillé au GBU pendant quelques années, et puis il est reparti aux États-Unis définitivement. Et avant de repartir définitivement aux États-Unis, il a donné une méditation à tous les responsables nationaux du GBU, donc responsables nationaux étudiants. Et il a commencé sa méditation comme ça. D'après mon expérience, donc il a 25 ans de ministère, hein, donc il est assez rodé. Il a dit, d'après mon expérience aux États-Unis, dans les GBU des États-Unis, dans 10 ans, la moitié d'entre vous ne sera plus chrétienne. Il a commencé sa méditation comme ça. La moitié d'entre vous dans 10 ans ne sera plus chrétienne. Quand vous commencez une méditation comme ça, il vaut mieux assurer derrière parce que ça crée un froid. Au moins, vous êtes sûr que personne ne va s'endormir. Hein. Et lui, vraiment, dans son expérience, hein, et ça commence à être mon expérience à moi aussi parce que ça fait 15 ans que je suis dans les GBU. Et dans son expérience comme dans la mienne, on a vu pas mal d'ex-GBUciens abandonner la foi. Je dis ça avec des guillemets. Pour des causes diverses. Par exemple, certains ont épousé un conjoint non chrétien, et du coup, ils ont continué à l'église un petit peu, et puis après, finalement, ils ont arrêté, puisque leur conjoint, puis leurs enfants, n'avaient pas envie d'aller à l'église, donc ils ont arrêté d'aller à l'église. Et bien sûr, avec ça, ils ont coupé tout contact avec leurs amis chrétiens, ils ont arrêté de lire la Bible et tout ça. Certains ont eu des échecs dans leur vie, soit ils ont raté des choses, assez, ou ils ont chuté avec certains vices, on va dire, ou ils se sont mariés, ils ont divorcé, et puis ils ont eu honte, et ils n'ont plus osé revenir à l'église. Ils se sont dit que finalement, où est Dieu, hein, finalement, si j'ai raté tant de choses? Certains avaient réussi à enfouir assez profondément certains péchés, et puis petit à petit, ils ont commencé à les assumer, et puis après, ils les ont tellement assumés qu'ils ne sont plus retournés à l'église parce qu'ils ont préféré finalement leur péché à l'église. Certains autres n'ont pas trouvé d'église assez bonne pour eux, truc un petit peu mystérieux que je n'arrive toujours pas à comprendre, mais parfois dans des villes très très grandes avec une quinzaine d'églises évangéliques, ils n'arrivaient pas à trouver d'église assez bonne pour eux, et du coup il y avait tellement pas assez d'églises bonnes pour eux que, eh bien, ils ne sont allés nulle part et eux aussi ont fini par couler totalement. Ces personnes que j'ai connues, que mon collègue a aussi connues aux États-Unis, ces personnes avaient été très très engagées pendant leurs années étudiantes. Elles participaient à plein plein d'activités d'évangélisation, elles donnaient des méditations, elles étaient engagées. Et ce que je trouve vraiment assez hallucinant, oui, c'est le talent, on va dire, entre guillemets, avec lequel ces personnes ont donné le change en faisant croire, et sûrement parce qu'elles le croyaient elles-mêmes, qu'elles étaient disciples de Jésus. Vraiment, on n'y a vu que du feu. On a vraiment cru, hein, qu'elles étaient de vrais disciples. Et aussi, ce qui est hallucinant, c'est la durée du subterfuge ou du quiproquo. Ces personnes ont vécu peut-être une bonne dizaine d'années, hein, dans les églises, à faire des choses dans les églises et dans l'église universelle, hein, donc aussi au GBU, et elles ont cru sûrement et elles ont fait croire que, eh bien, elles étaient réellement disciples. Et puis finalement, après, finissent par tout lâcher. Et pendant ce temps, je pense que ces personnes ont bénéficié des bienfaits d'être dans l'entourage de Jésus, dans l'entourage des disciples de Jésus. Un peu comme tous les suiveurs de Jean 6, dans le sixième chapitre de l'évangile de Jean, où au fur et à mesure, Jésus donne un enseignement sur le fait qu'il est le vrai pain. C'est en fait le récit qui suit, le récit que Pierre-Jean a lu, c'est après la multiplication des pains, où Jésus dit « c'est moi le vrai pain, c'est moi qui peux vous donner la vraie nourriture ». Et donc les gens qui suivent Jésus, qui viennent d'être nourris, disent « mais on ne comprend pas ton enseignement là ». On n'a pas besoin de vraie nourriture, nous. Ça va très très bien, nous. Et Jésus leur dit, mais non, vous avez besoin de vraie nourriture. Vous êtes vraiment affamés, en fait, vous avez besoin d'un sauveur. Et ils commencent à dire, mais non, on n'a pas besoin d'un sauveur. Et Jésus continue son enseignement, et beaucoup de ces personnes, de ces 5000 personnes qui avaient été nourries, elles disent, mais ton enseignement, il est trop difficile à comprendre. Et beaucoup de ces personnes s'en vont, ils ne suivent plus Jésus. Et Jésus explique ce phénomène en disant que si elles s'en vont, c'est parce que l'Esprit ne leur a pas donné la vie. Première explication. Deuxième explication, parce que le Père ne les a pas attirées à lui. Ces personnes ont suivi Jésus pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Elles ont vu des miracles. Et puis elles finissent par le lâcher. Et au bout d'un moment, quand Jésus voit qu'il y a plein de gens qui s'en vont parce qu'ils sont pas, ils sont pas contents de l'enseignement de Jésus, il se tourne vers les douze et puis il leur dit, mais et vous ? Et vous, vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez avec eux ou vous restez ? Et là, Pierre lui dit peut-être une des phrases les plus intelligentes qu'il ait prononcées pendant toute sa vie. « Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? On ne peut pas aller vers quelqu'un d'autre. C'est toi qu'on a suivi, mais parce qu'on sait qui tu es, on sait que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et là, Jésus lui dit, « Simon, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est pour ça finalement que vous me suivez, c'est parce que c'est moi qui vous ai choisi. » Mais voilà, il y a aussi des disciples avec des guillemets toujours, qui suivent Jésus et qui finissent par le lâcher. Un peu aussi comme dans la parabole du semeur, hein, dans Matthieu 13. Il y a des graines qui tombent dans le sol pierreux ou dans les ronces, qui commencent par pousser, très vite d'ailleurs, mais qui finissent par crever à cause d'un manque de racines, à cause du fait d'avoir été étouffé par les ronces. Dans tous ces cas, on a l'impression que l'illusion ne dure pas très longtemps dans la parabole du semeur ou dans Jean 6. Mais finalement, dans l'expérience, eh bien, on peut voir que si, parfois l'illusion peut durer assez longtemps. Il suffit d'imiter les véritables disciples. Il suffit que personne ne pose trop de questions sur la profondeur de la foi, sur la progression de la foi. Et surtout, il suffit qu'aucune autre idéologie ou idole concurrente ne fasse trop de concurrence. Et une fois qu'en fait, finalement, on a trouvé mieux que Jésus, on va vers mieux finalement. Sauf si on a bien compris qu'il n'y avait rien de mieux que Jésus. Ce que Jésus décrit ici, c'est quelque chose qui est réel. Et qu'il ne faut pas occulter, et qui surtout explique finalement que certaines personnes intègrent une église, intègrent un groupe de chrétiens, soient engagées et puis partent dans la nature. Et on se dit, mais pourquoi ? C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles ont connu sûrement une expérience de libération. Elles ont peut-être eu une expérience spirituelle très intense, mais l'Esprit Saint n'a pas fait sa demeure en elle. Deuxième application de cette réalité, qui est une explication plus large, qui peut aider à expliquer un phénomène que les médias n'arrivent pas à expliquer actuellement. Quand on regarde la télé, on voit souvent, quelquefois dans la semaine, on a filmé sur une caméra de sécurité, souvent dans un aéroport, certains jeunes anglais, français ou d'ailleurs, qui partent faire le djihad. Et on se dit, mais c'est quand même bizarre ça. Ces français, jeunes, intégrés, qui paraissaient avoir une vie normale, qui paraissaient être finalement à peu près normalement éduqués. Qu'est-ce qu'ils ont été faire le djihad ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Je pense que ce passage peut aussi nous expliquer cela. La France a bénéficié de la libération opérée par le christianisme pendant, en gros, 2000 ans, sûrement un peu moins. Même si le christianisme a été imposé à la population française qui n'était pas française à l'époque, même s'il n'a pas éradiqué totalement l'idolâtrie ancienne, le christianisme a tout de même assaini les modes de vie, supplanté le paganisme et donné une morale très bonne aux Gaulois. Et quand je dis ça, je suis pas naïf et je sais que l'évangile véhiculé à cette époque était souvent frelaté, empêchant la population de vraiment connaître Jésus. On a plutôt enseigné des rites un petit peu vide. Hein. On a souvent d'ailleurs remplacé l'idolâtrie ancienne, on a remis des choses un petit peu chrétiennes dessus, on a fait une sorte de mayonnaise, de cocktail. Et je ne suis pas naïf, hein. Je pense qu'on n'a pas sauvé plusieurs millions de personnes carrément en déclarant qu'elles étaient chrétiennes. Bref, la culture chrétienne ne sauve pas, j'en suis conscient, mais cette culture chrétienne préserve. Et je pense que la culture chrétienne et l'enseignement finalement quand même de la foi chrétienne a préservé la France jusque dans les années 60. Et doucement, depuis les années 60, cette culture chrétienne a disparu. Et les conséquences aujourd'hui, c'est justement ce qu'on voit. Des gens qui recherchent la transcendance que la République ne propose pas. Une transcendance recherchée dans des sectes, dans des gens qui disent à peu près n'importe quoi, des gens qui sont très charismatiques finalement, et donc on va suivre quelqu'un qui parle plus fort que les autres, qui dit des choses un petit peu simplistes, des sectes ou des partis politiques d'ailleurs, ou des gens qui vont faire le djihad. On assiste aussi à des spiritualités athées, des philosophes qui se lancent comme ça dans des spiritualités athées, et Vincent en a parlé la semaine dernière. Ou aussi des idolâtries matérialistes. Hein, voilà, des gens qui se prosternent devant tout ce qui a un écran, ça va du téléphone à l'ordinateur, en passant par les tablettes. On s'étonne que des personnes intégrées, cultivées, civilisées, sombrent dans la violence, sombrent dans l'irrationnel. Mais que leur reste-t-il d'autre quand vous sapez les fondements chrétiens de la société ? Que leur reste-t-il d'autre quand vous remplacez ces fondements chrétiens par un humanisme lénifiant ? Quand vous les remplacez par une petite morale toute gentille avec du vide, eh bien, ils n'ont rien d'autre. Et donc, ils se tournent vers des choses bien plus fortes, parce qu'ils en ont besoin. L'humanisme et sa laïcité prétend être neutre. Mais comme cette neutralité n'existe pas, d'après Jésus et d'après toute la Bible, cet humanisme ne fait que laisser une place bien nette et bien rangée aux idéologies les plus extrêmes, parce qu'elles donnent du sens à la vie. Pourtant, cet humanisme, et si vous écoutez les discours du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre, du Président de la République, pourtant cet humanisme prétend libérer les gens de l'obscurantisme, prétend libérer les gens de l'extrémisme, du mal en général. Et en cela, il est concurrent du christianisme. Mais c'est méconnaître la force, la puissance du péché qui n'est efficacement combattu que par la foi en Jésus et l'action du Saint-Esprit. Et donc, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on veut pour réellement libérer durablement les personnes de notre nation, nos compatriotes, eh bien, il faut que Jésus soit prêché et accepté. Dernière application. Quel évangile annonçons-nous ? Quel évangile vivons-nous ? Ce n'est pas une expérience spirituelle qui fait un chrétien, mais c'est une régénération en profondeur et sur la durée qui fait le chrétien. C'est quelque chose où il faut être bien plus patient. C'est quelque chose qui se voit pas de manière forcément extraordinaire et en profondeur. Et quand je dis ça, je dis pas ça pour mettre le doute, pour vous mettre le doute, ou pour que vous vous demandiez finalement, est-ce que j'appartiens bien à Jésus ? Même si, à mon avis, il faut toujours s'examiner soi-même. Et c'est souvent ce qu'on dit hein, avant de prendre le repas du Seigneur, que chacun s'examine soi-même et comprenne là où il en est avec le Seigneur. Mais je ne dis pas ça pour vous mettre le doute. Et d'ailleurs, je ne suis personne pour évaluer la conversion. Mais je pense qu'il est bon de ne pas se contenter du superficiel. L'évangile n'est pas là pour rendre les gens gentils. Il n'est pas là pour rendre les gens modérés, neutres. L'évangile est là pour les sauver. Les sauver, pour de vrai, durablement. L'évangile rend bien sûr gentil, hein, ça c'est sûr. Mais il y a plein d'autres personnes, pas chrétiennes, qui sont également gentilles. Il y a plein d'autres idéologies et l'humanisme rend les gens gentils la plupart du temps. N'oublions pas que l'évangile est explosif, que l'évangile pousse à être positivement radical, à ne pas faire de compromis, à changer tous les jours en étant remis en question. N'oublions pas que Jésus utilise souvent un vocabulaire violent, un vocabulaire de guerre pour décrire la vie d'un de ses disciples. Et le contexte de la parabole que j'ai lue, le contexte est un contexte de guerre, de guerre. Jésus déclare qu'il il était armé et qu'il a désarmé l'homme fort, c'est-à-dire le diable qui était dans cette personne, il l'a désarmé, il l'a viré. Il utilise vraiment un vocabulaire violent pour décrire ce qu'il est en train de faire avec les gens qui sont sous l'emprise du diable. Et je pense que si nous imitions un peu Jésus, en comprenant finalement qu'on est dans une guerre, si nous posions plus souvent des questions qui dérangent, si nous nous posions parfois des questions qui dérangent, nous éviterions pas mal de malentendus quant à notre état spirituel réel ou l'état spirituel réel de nos frères et sœurs. Parce que finalement, Jésus ne sauve pas pour qu'on soit des chrétiens passifs. Il veut que nous soyons des chrétiens actifs. Et je répète que quand on connaît les codes de l'Église, il est très très facile de paraître converti et même d'en être soi-même persuadé. Et c'est pour cela qu'il faut des moments de vérité où l'on est obligé de montrer son vrai fond. Des moments, des épreuves, des moments de conflit, plein de moments comme ça où finalement on regarde un peu ce qu'on a dans le ventre, comment est-ce qu'on réagit et vers qui on se tourne en premier quand on est en danger. Et l'épisode de la barque que Pierre-Jean nous a donné est par exemple un bon test. Vers qui on regarde, vers qui on se tourne. Bref, l'Église doit conserver un discours révolutionnaire, en disant: tournez-vous vers Jésus. C'est aujourd'hui le jour du salut. Tournez-vous réellement vers Jésus si vous ne l'avez pas fait. Revenez à Jésus si vous êtes éloigné. Ne croyez pas qu'un christianisme modéré et neutre suffira, car vous vous rappelez sûrement ce que Jésus dit dans l'Apocalypse à cette église qui n'est ni chaude ni froide, qui est tiède. Jésus lui dit: parce que tu n'es ni froide ni chaude, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. La modération n'est pas très très bien vue par Jésus. Alors vraiment, vraiment, nous puissions être renouvelés dans notre foi et que nous fassions appel au Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse, pour qu'il déborde et pour que vraiment nous vivions une vie de disciples qui plaise à Jésus. Amen.